Radioscopie.
Pierre Soulages.
Jacques Chancel. Mon invité aujourd'hui, Pierre Soulages, peintre. Mais peintre, c'est un métier ?
Oui.
Vous mettez du temps à répondre quand même.
Oui, bien sûr.
Ça commence par une passion ?
C'est d'abord une passion. Et un métier, sûrement pas un métier comme tous les métiers.
Plus difficile que les autres ?
C'est différent. C'est plutôt du domaine de la poésie. C'est plutôt du domaine de ces choses qui ne sont pas... Enfin, de ces activités qui ne sont pas des métiers.
C'est du domaine du don ? C'est quelque chose qui vous a été offert ?
Peut-être.
Mais c'est le talent, alors.
Mais c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas une... En tout cas, on ne peut pas parler de ça en général. Moi, je ne peux en parler que par mon expérience personnelle. Et j'ai décidé d'être peintre, bien sûr, parce que j'aimais dessiner. J'aimais tremper mon pinceau dans l'encrier et tracer... Mettre des traces noires, déjà.
Dès le départ ?
Oui, quand j'étais tout jeune. Et là, un jour, oui, vraiment, je me suis dit, la seule chose qui est importante dans la vie, c'est la peinture. Pour moi, en tout cas.
Et on peut donner une...
Et je trouvais que tous les métiers, justement, ce qu'on appelle les métiers, ou les activités des adultes, car j'étais un enfant à cette époque encore, étaient des activités... dérisoire, qui ne valait pas la peine. Je voyais les gens, me semblait-il, perdre leur vie. Et avec la peinture, j'avais l'impression que je ne la perdrais pas.
Mais quelqu'un vous avait aidé à être de cette manière ?
Oh, personne. Un milieu, au contraire, plutôt étranger à ces préoccupations.
Qui ne comprenait pas ?
Oh. Qui ne comprenait pas, qui n'avait pas une sensibilité portée vers ces choses-là. Parce que finalement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre, là. Ce sont des questions de sensibilité, de passion, de poésie, et l'intelligence, la compréhension, je pense que c'est un peu étranger à tout ça.
Et Pierre Soulages, votre père était artisan forgeron.
Oui, forgeron, carrossier.
Pas tout à fait dirigé vers l'art.
Oh, pas du tout. Je l'ai à peine connu. Il est mort quand j'avais 6 ans.
Mais il aurait compris ce que vous avez fait par la suite ? Quel chemin vous avez donné à votre peinture ?
Comment peut-on dire ça ? Je ne sais pas.
Puis vous êtes de Rodez, hein ?
Oui, oui.
C'est un pays dont les paysages peuvent aider ?
Oh, il y a de tout dans ces paysages de Rodez. Mais il y a des choses qui m'ont marqué. Mais des choses, finalement, quand j'y réfléchis, que j'ai choisies. J'ai beaucoup aimé l'Écosse, les grandes étendues désertiques, les choses élémentaires... Et brutal, et simple, mais dans l'Aveyron, il y a aussi de riantes vallées, de belles frondaisons.
Oui.
Et quand j'étais enfant, ce n'était pas les belles frondaisons que j'aimais, c'était les arbres nus, l'hiver. À tel point d'ailleurs que maintenant, après coup, je me rends compte que dès ce moment-là, j'étais déjà marqué par ce que je fais maintenant... qui est la peinture abstraite. Car enfin, quand on peint un arbre dénudé, si on est sensible au mouvement des branches, à la structure de l'arbre, au tronc noir, c'est un peu de la même manière qu'on peut être sensible à une sculpture abstraite, à ce qu'on appelle une sculpture abstraite, le mot d'abstrait... catastrophique à mes yeux, mais enfin, je l'accepte puisque maintenant il est reçu.
Vous faites abstraction de votre peinture.
Que voulez-vous dire ? Je comprends pas.
C'est-à-dire, vous vous dégagez complètement de votre peinture. Lorsque vous peignez, lorsque vous inscrivez des signes, ce sont des signes, les traits.
Oui.
Vous ne savez pas exactement ce que vous faites.
Non, bien sûr.
C'est votre peinture qui vous
oui,
informe.
Oui, c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. J'ai l'habitude de répéter ça.
Oui,
je ne procède pas par théorie, je n'ai pas d'idéologie de la peinture. Et d'ailleurs, c'est, je crois, ce qui me différencie de la plupart des peintres. Lorsque j'ai pris date, quand j'avais 26, 27 ans, quand je suis arrivé à Paris, après la guerre, après avoir vécu la guerre, c'était une période d'idéologie. Il y avait le réalisme socialiste, Marx, Freud, tout ça me paraissait étranger. Il y avait des peintres qui voulaient aller au peuple, qui voulaient... Je trouvais ça ridicule.
Vous ne vouliez faire partie d'aucune école. Une forme d'indépendance. Hein.
Oui, sûrement c'est une forme d'indépendance, mais ça venait non pas seulement d'un côté, d'un travers ou d'une particularité psychologique, ça venait aussi d'une réflexion sur la peinture et sur les pouvoirs de la peinture. Et réflexion que j'avais mûrie, non pas avant de peindre, mais après, devant les choses qui me touchaient, soit dans les musées, soit celles que j'avais faites et que j'aimais.
Enfin, dans le Rouergue où vous êtes né, Pierre Soulages, il y a ces vallées dont vous parliez à l'instant, il y a le touffu des feuillages, mais vous n'avez jamais eu l'envie de les peindre? Plutôt que seulement de vous attaquer à ces arbres que vous faites noirs?
Non, non, non. Et d'ailleurs, les arbres, il faut en parler, mais je n'en ai parlé, ça n'intéresse que mon enfance. À partir du moment où
vous avez oublié.
Non, je les ai oubliés si on veut. En réalité, je n'ai jamais exposé en tant que peintre professionnel, enfin, en tant que des arbres. J'étais enfant à l'époque des arbres, et ce que je fais n'a aucun rapport avec les arbres. Et d'ailleurs, on me fait souvent parler des arbres, et moi-même j'en parle parce que, pour expliquer, mais finalement, vous savez... Tout ce qu'on tente d'expliquer, en général, c'est ce qu'on ne comprend pas.
Vous ne leur donnez pas de feuilles à vos arbres?
Jamais, non. À cette époque, jamais.
Pourtant, c'est la sève, c'est...
Oui, oui, mais...
C'est le résultat.
Mais c'était... ce qui me frappait, c'était les arbres dénudés et seuls. Et au fond, c'était la trace du pinceau sur une surface. C'est ce qui, plus tard, m'a occupé.
Enfin, fils de forgeron... Vous avez fait des études, puisque vous êtes allé jusqu'aux Beaux-Arts.
Oui.
Mais vous pouviez prévoir que vous seriez peintre? Car il faut dire que vous dessinez très bien.
Oui, j'ai appris à dessiner, mais ça c'est tout, finalement tout le monde...
Tous les peintres savent dessiner?
Plus ou moins peut savoir dessiner. Mais tout ça, c'est des questions de virtuosité.
De technique,
de virtuosité. Ce qui s'apprend n'est pas le plus important, à mon avis. C'est utile, c'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. Je crois qu'il faut faire ses armes, il faut affiner sa sensibilité, son regard, la main. Tout ça, ce sont des choses effectivement qui sont utiles, mais ce sont des exercices. Et ça n'a rien à voir avec l'art, au fond.
Mais on pourrait donner une définition de la peinture. Très difficile.
Non, on peut.
Si ? Une relation, un ensemble de relations avec les formes.
Il y a, certes, il y a les définitions qui ont couru les manuels, celle de Maurice Denis, celle que je donnais d'ailleurs aussi en 46-47, et qui figure sur des catalogues de cette époque.
Et qui est ?
Où je disais que la peinture était un ensemble de formes, de relations entre les formes, je cite à peu près.
Une suite de sens, vous disiez ?
Non, ou un objet sur lequel les sens viennent se faire et se défaire. Je disais ça d'une manière un peu savante. Je dis maintenant peut-être la même chose, mais différemment. Pour moi, la peinture, c'est un objet. Une peinture, c'est un objet. Et c'est un objet qui mobilise chez celui qui le regarde toutes les richesses qu'il a en lui et qui s'investissent dans le dialogue qu'il engage avec cet objet qu'est la peinture. Enfin, une peinture, c'est quelque chose comme un objet magique.
Lorsque vous êtes devant votre toile, vous l'avez dit, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Mais oui. J'imagine que vous êtes guidé par quelqu'un, par quelque chose. Et moi, je pense, parce qu'il y a une gestuelle, je pense au chef d'orchestre, qui dirige, lui, quelque chose qui existe.
Oui, mais... Oui, le chef d'orchestre... Oui, c'est très bien, et ça va peut-être permettre de toucher à quelque chose d'important. Le chef d'orchestre, enchaîne ses gestes les uns aux autres. Alors que, dans mon cas, oui, on m'a considéré comme un peintre gestuel. Moi, je ne me suis jamais senti un peintre gestuel. Dans mon cas, ce qui se passe entre moi et la toile, ce n'est pas un enchaînement d'un geste à un autre geste. C'est un enchaînement qui passe toujours par l'incarnation picturale du geste. C'est-à-dire par ce qui se passe sur le tableau et qui est quelque chose de très complexe, de très mystérieux, de beaucoup plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Quand on voit une tache noire, il y a des rapports, une tache noire qui arrive dans le travail, par exemple. C'est certes la trace d'un geste, peut-être, mais ce qui compte pour moi, c'est ce qu'elle est concrètement, picturalement, c'est-à-dire les rapports que cette tâche entretient avec le fond. Sa nature même, elle est lisse, elle peut être fibreuse, elle peut être sur un bord frangé, incisive. Elle a des caractères physionomiques très nombreux, très riches. Et ce sont ces caractères-là, que j'appelle les caractères picturaux, qui provoquent ma sensibilité, qui me donnent envie de continuer, d'approfondir, d'intensifier. Intensifier, c'est le mot d'ailleurs important. Donner plus d'intensité à ce que je ressens au moment où je peins. Et de proche en proche, de forme en forme, de forme picturale en forme picturale, le tableau s'échafaude. Mais ce n'est pas de geste en geste. Je ne suis pas un peintre gestuel.
Vous avez parlé de poésie, et je sais à quel point vous aimez la poésie. Vous pouvez faire des alliances, peinture, poésie, musique. On pourrait, par exemple, accorder votre peinture à un musicien, à un poète.
Oui, mais ça, je ne crois pas. Je ne crois pas à ce genre d'interdisciplinarité. Je ne crois pas aux correspondances, au sens...
Ce sont des tendresses, plutôt.
Oui, ou ce sont des familles, peut-être. Oui. Mais ce que je ressens lorsque j'écoute une musique, ce que je ressens et ce que j'éprouve et ce que je vis, plutôt que de dire « ressentir », c'est un mot faible. Ce que je vis en écoutant une musique n'a pas grand rapport avec ce que je peux vivre en regardant une peinture ou en lisant et en relisant un poème. Ce sont des choses qui me paraissent tout de même différentes, encore que elles appartiennent au monde de l'art.
Oui, mais la musique, je comprends peut-être que vous la laissiez de côté et que vous vous occupiez seulement de la peinture. Mais vous pensez à un poète lorsque vous peignez ?
Non, jamais. Mais en dehors de peindre, souvent, je lis de la poésie et de la musique, j'écoute de la musique. Oui. Autrefois, j'écoutais souvent Guillaume de Machaut, Perrotin, j'écoutais Josquin des Prés. C'était des choses qui me touchaient beaucoup dans les années 40, pendant la guerre, et juste après la guerre, à mes débuts de peintre abstrait.
Alors justement, vous dites peintre abstrait. Vous n'avez jamais été figuratif.
Enfant.
C'était le dessin qui était figuratif.
C'était le dessin, puis j'ai peint aussi des arbres enfant, j'ai peint aussi des natures mortes, et j'ai fait des choses comme ça. Mais au lycée. Et assez rapidement, j'en suis venu à la peinture abstraite. Et je dois dire que, pas tout seul, il y a eu des rencontres. Une rencontre décisive, pour moi d'ailleurs, a été celle d'un magazine de propagande nazie, qui était Signal. Et je voyais dans Signal des photographies de peintures dégénérées. Dites dégénérées par les nazis.
De qui ?
Oh, il y avait Mondrian, Kandinsky, enfin toute la peinture contemporaine. Il y avait aussi des surréalistes comme Tchelitchev. Je dois dire que je n'étais pas enchanté par ça, mais j'ai été très secoué par cet article, mais dans le sens absolument opposé. J'ai trouvé que ces peintres dégénérés, c'était ce qu'il y avait de plus vital dans la peinture.
C'était au commencement de quelque chose.
Absolument.
Et il y a eu également les rencontres que vous avez pu faire, que vous avez su faire. Il y a eu cette rencontre chez Joseph Delteg avec Sonia Delaunay.
Oui, c'était à peu près au même moment, je pense. Je ne sais pas si c'était avant ou après Signal, mais c'était à peu près au même moment.
Et c'est vraiment Sonia Delaunay qui vous a montré l'abstrait ?
J'ai parlé de l'art abstrait avec Sonia Delaunay. Elle en avait une vue et une conception très différente de celle que je pouvais avoir. Et nous avons eu des discussions dont je ne me souviens pas parce que c'est lointain, mais qui avaient été très importantes pour moi. Et décisive, mais je ne voyais pas l'art abstrait comme une rupture aussi catégorique que ce qu'elle peut paraître à certains avec la peinture figurative. Je voyais ça comme une peinture qui découlait logiquement d'une réflexion, d'une méditation sur la peinture et sur la peinture figurative. C'était un autre mode de toucher la sensibilité l'imagination poétique de chacun. Je n'ai jamais vu ça comme une... C'est une rupture. Il est très important qu'un tableau soit considéré comme abstrait. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Un tableau figuratif fonctionne toujours.
Mais vous aimez quand même les tableaux, les figuratifs.
Ah, mais si vous me demandez les tableaux que j'aime, vous verrez, il y aura là probablement autant, sinon plus, de tableaux figuratifs que de tableaux abstraits. Je vais au Louvre, et d'ailleurs, c'est d'une réflexion sur la peinture, sur l'histoire de la peinture, qu'est née la peinture abstraite, non pas la mienne. La mienne n'est pas venue d'une réflexion avant de peindre. Elle est venue d'une réflexion sur ce que je faisais et qui me touchait, et qui me touchait davantage que lorsque cela passait par la représentation, par l'image, par la figuration d'un objet.
Mais vous avez emprunté quand même à de grands figuratifs. Je veux dire qu'au départ, vous avez été secoué d'admiration. Je pense à Rembrandt.
Mais toujours. Mais toujours.
Moins quand même aujourd'hui, parce que vous appartenez beaucoup plus à Soulage.
Non, mais toujours, oui, non, mais enfin, je vous savez, si vous me demandez si j'aime ce que je fais, en réalité, je vous répondrai, oh, j'aime ce que je vais faire. C'est d'abord ça, bien sûr. C'est pourquoi je peins. Si j'avais fait les tableaux qui me satisfont définitivement, je m'arrêterais.
Mais de quelle manière existez-vous, à votre avis? Soulage, c'est un peintre important dans ce XXe siècle.
Mais ça ne dépend pas de moi.
Oui, mais vous le pensez que vous êtes important? Pour la peinture, ne parlons pas. C'est difficile, je sais, de parler de peinture et de parler soi-même.
Je ne sais pas. En tout cas, ce que je fais est pour moi très important. Et je ne peux pas faire autre chose que ce que je fais. Et le plaisir, la joie que je peux avoir, c'est de voir que cela compte aussi pour d'autres hommes que moi.
Mais lorsque, au cours d'une exposition, quelqu'un s'attardant devant un de vos tableaux dit, et cela se dit souvent pour vous et pour d'autres, « Oh là là, mon fils aurait pu faire ses tâches », comment réagissez-vous?
Oui, oh ben...
Parce qu'on dit n'importe quoi,
on entend ça, effectivement, souvent.
Oui, mais comment réagissez-vous? Vous êtes peiné, vous avez envie d'expliquer.
Je suis peiné du manque d'éducation, de l'œil, de ces gens-là, de l'œil et de la sensibilité. Je suis peiné de voir que ces gens-là, qui disent ça, n'appartiennent plus tout à fait à la même culture que nous. Parce que il y a aussi un aspect culturel dans ce que nous faisons. Nous ne sommes pas seuls, nous ne venons pas d'une planète inconnue, parachutée comme ça dans le XXe siècle. Ce que nous faisons s'insère d'une manière cohérente, on pourrait dire presque logique, dans l'histoire de la peinture. Et ces gens qui disent ça, ce sont des gens qui, lorsqu'on leur montre un tableau figuratif, en parlent ou le ressentent d'une manière très pauvre, généralement. Et ça m'attriste, mais c'est un problème d'éducation. Et ça m'attriste pour l'éducation qu'ils ont reçue.
Vous croyez au signe, Pierre Soulages, parce que je vois que vous êtes né le 24 décembre 1919. Je ne me trompe pas.
C'est ça, oui.
24 décembre 1919, ce sont quand même des dates importantes. 24 décembre, c'est quand même la veille de Noël.
C'est ça, oui.
Et 1919, on est vraiment à la fin de quelque chose.
Oui.
C'est le commencement d'autre chose.
C'est le début d'un temps de paix relativement court, finalement.
Un peintre peut croire à la paix, parce qu'un peintre se réfugie quand même dans une forme de chapelle, et peut-être évite toutes les secousses du monde.
Ah, je ne crois pas.
Non, non, je ne crois pas. Vous êtes dans votre atelier.
On n'est pas réfugié, pas du tout.
Non, pas du tout.
Oui, quand on peint, oui. On est seul. Mais tout le monde est seul à un moment ou l'autre. Et d'ailleurs, finalement, tout homme qui fait quelque chose est seul devant ce qu'il fait. Mais il est aussi, il appartient aussi à un moment... À un moment de l'histoire, à un moment de la culture, je le disais tout à l'heure, mais aussi à un moment de l'histoire. Et je ne me réfugie pas, je ne suis pas... La peinture n'est pas un itinéraire de fuite. C'est une manière de sentir le monde et la vie beaucoup plus pleinement. C'est une manière de sortir des petites idées, de notre prison d'idées, d'émotions, de désirs dérisoires, qui sont ceux qui nous occupent les trois quarts du temps. Et la peinture, c'est ça. La peinture, c'est quelque chose qui va à l'essentiel.
Saint-Pierre Soulages, vous êtes né dans le Rouergue, à Rodez. C'est vraiment à Paris, ou plutôt à Courbevoie, je crois, que vous avez commencé votre métier de peintre.
Oui.
Et puis, vous êtes revenu un peu dans ce pays, mais pas tellement, parce que vous travaillez beaucoup à Paris. Et pourtant, vous devez beaucoup à votre pays de naissance, à ce Rodez, ou du moins aux environs. Parce que s'il n'y avait pas eu toutes les pierres de ce pays, cet abbatial qui est...
À Conques,
je ne connais pas.
Oui,
comment s'appelle-t-elle? Sainte-Foy, je crois.
Conques, Sainte-Foy de Conques, oui. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé.
Oui.
Mais ça, c'est mon pays... Natal, c'est vrai, natal physiquement,
profond.
Biologiquement, profond, vous savez, j'ai des racines certainement, et j'en suis sûr, dans le Rouergue, dans un Rouergue un peu mythique, qui est le mien. Mais mon pays, c'est la peinture, et c'est aussi bien... Ce La Vie de Rembrandt qui m'a bouleversé quand j'avais 17 ans, c'est aussi bien ce La Vie de Claude Lorrain qui m'a fait réfléchir sur la peinture. Et quand on me parle de mon pays, je n'ai pas du tout envie de dire que je ne suis pas du Rouergue, parce que c'est vrai. Mais je suis également, et peut-être davantage encore, d'un pays dont les limites géographiques, dont les limites ne sont pas géographiques. Et d'ailleurs, quand on parle d'un pays... on peut aussi parler de race. Je ne crois pas beaucoup aux races. Mais enfin, les gens du Rouergue, quand on parle à un peintre, on parle toujours des paysages qu'il peut avoir vus, du climat visuel. Mais il y a autre chose que le climat visuel. Il y a toute la culture qui se trouve enfouie comme ça chez des gens qui sont venus habiter ce pays au deuxième âge du fer. Et... Finalement, il y a peut-être des racines qui vont beaucoup plus loin que celles que l'on peut distinguer dans les limites d'un département.
Alors Pierre Soulages, votre identité vraie, c'est la peinture. Et d'une manière générale, vous aurez tout inventé, puisque dans la peinture, vous n'êtes pas figuratif, vous êtes abstrait, c'est-à-dire que vous inventez votre monde, et que même, sans refuser tout à fait... Votre naissance, c'est-à-dire Rodez ou le Rouergue, vous reconnaissez comme pays véritable encore la peinture.
Oui.
C'est-à-dire c'est un monde à vous.
Non, c'est pas à moi, c'est un monde... Oui, c'est un monde à moi, mais enfin, dans la mesure où les tableaux que je fais sont reçus, acceptés, aimés par d'autres que moi, c'est mon but est rempli... je peux dire que ce que je fais est à ce moment-là autre chose qu'une petite activité personnelle limitée à mes propres plaisirs.
Mais lorsque vous êtes allé pour la première fois à Sainte-Foy de Conques, normalement vous auriez dû être attiré par les piliers, par...
Mais c'est ce qui m'a plu.
Par les pierres, mais vous auriez dû être architecte.
Ah, bah, vous savez...
Non, mais si on suit la logique des choses...
Oui, si on suit la logique matérielle des choses...
Ce qu'il ne faut pas faire,
d'ailleurs. Ce qui compte, ce qui m'a bouleversé, ce qui m'a touché dans Conques, c'est l'espace. Mais l'espace, il ne faut pas croire, naïvement, que dans les arts plastiques, l'espace, c'est quelque chose comme la troisième dimension, comme seulement des proportions. C'est ça, bien sûr, au départ... Mais ce qui compte, c'est l'espace intérieur, c'est l'espace poétique, si je peux dire ça, l'espace du dedans, c'est ce qui compte. Et quand on est bouleversé par une architecture, il n'y a pas forcément de raison de devenir architecte. On peut travailler aussi avec l'espace, ou se laisser travailler par l'espace quand on peint. Et c'est ce qui se passe. Et je dis bien l'espace intérieur, l'espace du dedans, non pas la perspective, la troisième dimension, ou ces banalités académiques qui se cachent en général derrière le mot espace.
Mais lorsque votre professeur, le professeur de votre collège de Rodez, vous entraînait à Sainte-Foy-de-Conques dans cet abbatial, il vous expliquait bien les choses. Les enseignants savent-ils dire aux enfants ce qu'il faut vraiment dire?
Je ne suis pas sûr, mais il avait le mérite de nous avoir amenés là. Et je dois même dire que ce qu'il disait...
J'en ai qu'il disait très bien.
Moi, j'en ai... Malheureusement, cette fois-là, je crois que j'avais été révolté, autant que je me souvienne, de ce que j'avais entendu. On me parlait de la maladresse des sculpteurs romans, que je n'arrivais pas à admettre, d'ailleurs, parce que effectivement il y avait des choses qui pouvaient être considérées par des yeux un peu, ou par, plus exactement, par une sensibilité formée par d'autres époques, ça pouvait être considéré comme de la maladresse. Mais à côté de ça, il y avait des chapiteaux et des feuilles d'acanthe qui étaient prodigieusement adroits. Et je m'étais fait cette réflexion, pourquoi considérer ça comme de la maladresse? Et puis, de toute façon, je trouvais que cette prétendue maladresse-là me touchait bien davantage que si cela avait été de l'adresse et de la virtuosité.
Et du trop fini.
Oui, de la virtuosité.
Alors soyons tout à fait francs.
Je ne crois pas à la virtuosité, dans aucun domaine.
Soyons tout à fait francs, Pierre Soulages. Où est le plus difficile? Est-il dans la peinture que vous faites, ou est-il dans la sculpture d'un de ces piliers que l'on pourrait faire comme le faisaient les sculpteurs romains?
Le plus difficile, c'est d'être soi-même. C'est d'être parfaitement sincère, parfaitement en accord avec ce qui se passe au-dedans.
Faut-il raconter sa peinture? On vous le demande parfois?
Je ne crois pas que ça puisse se raconter, de toute façon. Ce que l'on peut dire... ce que l'on peut dire modestement, c'est comment on procède. Mais comment raconter une peinture?
Mais vous avez l'impression qu'il y a une unité dans votre œuvre, à partir du moment où vous avez commencé, jusqu'à ce moment présent?
Je sais bien,
vous ne faites aucune relation entre le passé et le présent.
Le présent vient du passé, mais il y a eu des tas de changements et quelquefois des ruptures. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne me suis jamais posé la question de l'unité de mon œuvre. Si ce que je fais est parfaitement sincère, parfaitement venu de moi, fatalement, il y aura une unité, mais ce n'est pas à moi à la rechercher. Ce n'est pas à moi à y penser. Ce qui importe pour moi, c'est de vivre avec la peinture, de vivre en peintre.
Alors il y a le problème des couleurs. Vous avez beaucoup sacrifié au noir pour rendre peut-être le blanc plus beau. Mais pourquoi? Pourquoi le noir?
Pour la lumière. Ça a l'air de paradoxe.
Vous portez du noir.
Oui, enfin ça c'est d'autres raisons.
S'habille parfois des couleurs que l'on aime.
J'aime le noir. Mais les couleurs de mes vêtements, ça n'a pas une très grande importance pour moi. Le noir dans la peinture, d'abord, dans la peinture, il n'y a pas de couleur.
Le noir est en couleur.
Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de couleur telle que le noir. Je veux dire que dans la peinture, il n'y a que des relations. Et quand je dis le noir pour la lumière, c'est parce que c'est la couleur la plus violente. C'est la couleur la plus puissante et qui fait jaillir de la toile elle-même, qui crée dans la toile elle-même une lumière, et qui est une lumière née des relations de couleurs, une lumière intérieure, une lumière qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec la lumière du jour, la lumière physique qui est celle qui est sur les objets. C'est une lumière autre, c'est une lumière picturale. Et c'est aussi une lumière intérieure. Et finalement, les rapports qu'il y a entre la lumière picturale et la lumière telle qu'on la comprend et telle qu'on la voit sur les objets, ce sont des rapports aussi lointains que ceux qu'il y a entre l'espace pictural, l'espace du dedans, d'une œuvre picturale et l'espace dont rencontre la perspective.
Oui, mais alors on a donné quand même de mauvaises couleurs au noir, parce qu'on en a fait la mort, on en a fait la tristesse.
Oui, c'est vrai, mais enfin, le noir, oui, parce qu'on pense d'abord, un noir, ça n'existe pas. Un noir, ça a toujours une forme, et c'est toujours sur un fond, et c'est toujours à côté de quelque chose
d'autre. C'est toujours la couleur du deuil.
En Chine, c'est le blanc.
Oui. Alors, le noir et le blanc.
Ben, le noir et le blanc, oui, mais il n'y a pas un seul noir, et comme je vous le disais, un noir, c'est un rouge rond n'est pas, pour un peintre, le même rouge que le même rouge triangulaire.
Mais
Pierre, c'est inséparable de la forme, et des relations qu'il y a. Un tableau, c'est un tout organisé, c'est un ensemble, c'est un objet complexe, plein de relations, et c'est ça. Alors quand on parle, j'ai jamais très bien compris d'ailleurs, quand on parle d'une couleur comme ça, parce que c'est une abstraction, alors que les peintres ne travaillent pas avec des abstractions, les peintres abstraits en particulier, ils travaillent avec des choses concrètes, et ces choses concrètes sont les ensembles de couleurs, de matières, de rapports qu'il y a entre les formes. Ça, ce sont des choses très...
Mais Pierre Soulages, pour être peintre, il faut savoir dessiner. Vous croyez un peintre qui ne saurait pas dessiner ?
Savoir, c'est toujours aussi un mot qui m'a paru bizarre. Il y a des gens qui ne savent pas dessiner, qui dessinent très bien. Et ce sont peut-être même les dessins que je préfère.
Savoir, ça va toujours avec ça.
J'ai entendu des gens qui disaient que Cézanne ne savait pas dessiner. Et il dessinait très bien. Et il a fait des choses admirables, beaucoup plus belles, à mes yeux, beaucoup plus, qui vont beaucoup plus loin, qui m'exaltent bien davantage que les dessins de Bouguereau, qu'il admirait pourtant, parce qu'il admirait la virtuosité, parce qu'il Bouguereau savait dessiner, sûrement. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait bien dessiné.
Alors, aujourd'hui, vous êtes un peintre abstrait. Mais pourriez-vous revenir à un figuratif qui serait celui de l'enfance ? C'est-à-dire, pourriez-vous revenir, par exemple, au banc des Beaux-Arts, où il n'y a pas de banc, d'ailleurs, oui. À vos beaux moments des Beaux-Arts, où, par exemple, il y avait devant vous un modèle.
Oui.
Vous pourriez le refaire un tableau qui serait un tableau...
Ce serait un exercice. Un exercice qui m'ennuierait sûrement. Mais...
Ça vous ennuierait pourquoi ?
Parce que je trouverais ça vain. Je préférerais d'autres exercices que celui-là. Je trouve que... Non, ça ne m'intéresse pas. La peinture, pour moi, maintenant, est hors de cette question de représentation.
C'est-à-dire peindre ce que l'on voit avec ses yeux, c'est un vol. Alors que votre peinture, c'est plutôt une invention.
Ce que je peins, je le vois avec mes yeux. Mais c'est l'objet qui est la toile. Et ce n'est pas l'image, plus ou moins parfaite ou imparfaite, de quelque chose que je représenterai. Je ne représente pas, je présente. Je ne dépeins pas, comme la peinture figurative. La peinture figurative, ou certaines peintures figuratives, ne font que dépeindre, et je le regrette. Je peins. La peinture qui se sert des images, au fond, n'est pas... qui dit peindre, dit feindre, dans ces cas-là. C'est une fiction. La peinture dont je parle, c'est une réalité.
Un peintre peut-il dire à un certain moment qu'il a trouvé ?
Je ne crois pas. Un peintre cherche, un artiste
oui,
cherche.
C'est Picasso qui disait, je crois, j'ai trouvé, maintenant je cherche.
Non, je crois, il disait, je ne cherche pas, je trouve.
C'est la même chose ou c'est la différence ?
Non, c'est important. Il disait, je ne cherche pas, je trouve. Et moi, je ne dis pas ça. Je dis, c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche, c'est-à-dire que je découvre ce que je cherche en peignant. Et je ne dis pas que je le trouve.
Oui.
Je découvre ce que je cherche.
Mais vous vous laissez conduire par la main.
Oh, par la main, par tout ce que je suis, par ma sensibilité. réalité qui est faite de ce que je sais, de ce que je crois, de la culture à laquelle j'appartiens, du monde dans lequel je vis. C'est tout ça qui me dirige et qui a formé cette sensibilité et qui, en réalité, dirige les réactions que je peux avoir devant ce qui se passe sur un tableau et que j'essaie de faire mien, que j'essaie d'empêcher de m'échapper.
Mais aujourd'hui, vous êtes sûr de ne pas vous être trompé, parce que vous auriez pu être architecte, vous auriez pu être archéologue, je ne sais pas, d'autres choses encore.
J'aurais pu être malheureux aussi, et je ne peux pas dire que je suis heureux avec la peinture, mais je ne crois pas... Je crois que j'ai eu beaucoup de chance.
Non, je veux dire par là,
mais en réalité, ça n'a pas été... J'aurais pu me tromper s'il s'agit d'un choix entre plusieurs possibilités. Veux-tu être architecte? Veux-tu être médecin? On me l'a dit d'ailleurs, on m'avait même tenté de ce côté-là. Veux-tu être... c'est pas autre chose. Pour moi, il n'y avait pas de question. Ce qui me touchait, ce qui me mettait en mouvement, c'était la peinture. Le reste, ça m'ennuyait. Et je dirais même que le reste, et beaucoup d'activités qu'avaient des gens autour de moi, je trouvais ça très futile, je trouvais que c'était perdre sa vie, que de se livrer aux activités auxquelles... certains se livraient.
Donc on est inscrit quelque part, quoi.
Alors, je ne sais pas, mais c'était un choix. Vous voyez, il y a des choix que l'on fait en connaissance de cause, et on pèse le pour et le contre. Ça n'a jamais été ça pour moi. Je me demande si je n'ai pas été choisi. Voilà. Autant que j'ai choisi. Mais ça, c'est une question que je peux poser.
Non, mais répondez justement, avez-vous été choisi?
Mais peut-être. En tout cas, c'est un choix tout à fait inconscient, pas du tout comme, au fond, ce qu'on définit comme un vrai choix.
Peut-on dire, par exemple, Pierre Soulages, que certains passent à côté de ce qu'ils auraient dû être? Peut-être rencontre-t-on quelqu'un qui fait un travail et qui aurait pu être un grand peintre, quelqu'un qui aurait pu être un grand écrivain, un autre un grand poète, et parce que... il n'a pas eu le bonheur de naître quelque part, ou de ne pas être accompagné, oui. Ou de ne pas être aidé.
Le bonheur ou l'énergie?
Ou l'énergie.
Ou la passion.
Est-ce la nécessité de naître de cette manière, ou est-ce qu'il y a une énergie nécessaire pour devenir ce que l'on est?
Il y a une énergie nécessaire.
Donc on ne peut pas sans travail.
Sans travail, non.
Sans talent et sans travail.
Sûrement on ne peut pas sans travail. C'est une question de... L'énergie, ce n'est pas forcément le travail. La passion, ce n'est pas forcément le travail. Mais je reconnais que... ce que je fais, en tout cas, j'ai pu le faire dans la société où je suis né. Et ça, c'est quand même, à mes yeux, toujours formidable. Et je ne suis pas sûr que dans d'autres sociétés, j'aurais pu faire ce que je fais avec la liberté que j'ai eue pour le faire.
Mais vous dites parfois, l'art n'a pas besoin d'anecdotes. Cela veut dire quoi?
Tout à l'heure, l'anecdote dans la peinture...
C'est quoi l'anecdote?
C'est le texte.
Oui.
Tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut raconter d'histoire devant une peinture. Et... certes, il y a des peintures qui passent par là, mais il n'y a aucune peinture qui, à mes yeux, soit une œuvre importante si elle se limite à ça. Je vais quelquefois au Louvre et j'entends, ou j'entendais surtout autrefois, moi maintenant, je dois dire, des gens qui parlaient des tableaux qu'ils montraient aux troupeaux de touristes qu'ils entraînaient dans ces visites. Et je me disais, en les entendant parler, mais au fond, le sacre de Napoléon, tel qu'ils le décrivent, le sacre de Napoléon de David, si au musée Grévin, on reconstituait cette scène, il n'y aurait rien à changer à leurs propos. Par conséquent, ce sont des gens qui ne parlent pas de peinture, ils ne parlent que de l'anecdote, de ce que tout à l'heure j'appelais le texte.
Le texte.
Mais une peinture... figurative, c'est toujours une vie vraiment comme peinture que dans la mesure où il y a des relations qui se créent entre ce que la peinture représente, ce qu'elle raconte parfois d'ailleurs, et ce qu'elle est réellement comme peinture, c'est-à-dire comme couleur, comme espace, comme rythme, comme tableau.
L'académisme, vous le condamnez?
Tous les académismes sont condamnables.
Toutes les chapelles?
Toutes les chapelles, toutes les écoles.
Toutes les écoles.
Oui.
Pourtant, vous auriez pu être réaliste.
Peut-être, je ne sais pas.
À ce moment-là, peut-être vous auriez été dans un creuset, ce qui tendrait à prouver qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'école.
Oh, il y a des écoles aujourd'hui. Elles ne sont pas...
Oui, tellement.
Elles ne sont pas kémalakées, mais il y a des modes.
Des modes.
Et les modes sont les pires des écoles.
Oui, mais ce ne sont pas tout à fait des écoles, les modes.
Oh, c'est... Les écoles, en tout cas, comme les modes, se démodent.
Là, il y avait... Tout à l'heure, on parlait du pays, et il y a une phrase de vous qui est belle, parce que je crois qu'elle mérite prolongement. Vous disiez, il ne faut pas confondre le pays de mon enfance avec le souvenir que j'en ai gardé. Et je crois que c'est valable pour beaucoup de choses.
Oui, bien sûr. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais du... Vous me parliez du Rouergue, je vous disais le Rouergue mythique que je me suis forgé. Oui, bien sûr.
Vous auriez même pu complètement l'inventer.
Maintenant, le pays de mon enfance est une chose qui compte, mais le pays que j'habite en ce moment est une chose qui est importante pour moi et qui l'est encore davantage.
La peinture.
Et ce pays, c'est la peinture.
Oui, alors comment réaliser?
Et la peinture, c'est encore un mot vaste. C'est cette peinture-là que je voudrais faire.
Et vous savez ce que vous voudriez faire?
Non, pas vraiment, mais celle que j'espère faire. Le mot est peut-être meilleur que...
Mais dans vos constructions, lorsque vous dites « je sais » ou « je voudrais savoir ce que je vais faire », vous arrivez à quand même faire une structure?
D'avance, jamais.
Lorsque vous arrivez devant une toile, vous ne savez pas du tout ce que vous allez faire?
Non. Et quelquefois, je ne fais rien. Je tourne.
Marcher.
Je regarde, oui. Je prépare des couleurs. Et puis, je n'ose pas. Et je m'en vais.
Alors, et lorsque vous osez, c'est-à-dire lorsque vous commencez à inscrire sur la toile?
Alors, il y a des choses qui se passent entre elle et moi. Et quelquefois, c'est très exaltant pour moi. Et quelquefois, c'est une défaite. C'est-à-dire que j'abandonne et le lendemain, je range cette toile et je ne veux plus la voir.
Il y a aussi... Le dangereux du métier de peintre, c'est-à-dire c'est le moment où il devient important, où il est considéré comme important, c'est-à-dire au moment où il prend du prix et où il peut se perdre.
Je ne comprends pas. Quand...
On dit d'un peintre, il vaut tant.
Ah, du prix, la valeur marchande.
Avec un X à la fin.
Oui, la valeur marchande, c'est notre problème.
Oui. Oui, mais que c'est un problème. Ne refuse pas.
Ah non, certes, c'est un problème important, surtout quand on est seul, que personne ne s'intéresse à ce que l'on fait et que l'on vit d'expédients pour arriver à peindre. À mes débuts, je l'ai fait. Et oui, alors à ce moment-là, c'est important. Mais qu'une peinture prenne du prix, vous savez, la valeur d'une œuvre, c'est un autre problème. C'est un problème d'ordre commercial, c'est un problème qui n'a rien à voir au fond avec les vrais problèmes d'un artiste.
Oui, mais
c'est la, au fond le prix d'une toile, ça ne vaut une peinture, ça ne vaut rien et ça vaut tout l'or du monde puisque une autre ne peut pas la remplacer. Le prix.
Donc lorsqu'on paye un Velázquez 3 milliards de centimes, on peut penser que ça n'a pas de prix.
C'est même pas assez. Pourquoi? 3 milliards de centimes, ça veut dire qu'avec 3 milliards d'autres centimes, on pourrait avoir le même Velázquez? Pas du tout.
Mais à un certain moment, Pierre Soulages, vous deviez vous dire, pas aujourd'hui, parce que les choses ne sont pas tout à fait acquises, rien n'est jamais acquis, mais enfin, vous êtes installé, mais à un certain moment, vous pouviez vous dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire 2 toiles. Parce que...
Ah oui, mais je vais réussir 2 toiles, ça, non, qui peut le dire avant?
Certains peintres, à un moment de leur vie, ont été obligés de travailler de la sorte.
Oui, oui.
Encore à condition qu'ils aient l'espoir d'être vendus.
Oui.
C'est une question qui pour ça, vous, n'a plus d'importance.
Ça, non plus, si, ça en a toujours, mais pas celle que l'on croit. Enfin, se dire « je vais faire 2 toiles aujourd'hui », non, c'est une chose que jamais je n'aurais pu me dire.
Certains peintres l'ont fait.
Et surtout, faire des toiles en vue de l'argent que ces toiles-là pourront amener, Ça, je crois, alors que là, nous changeons de domaine. Nous sommes plus dans le domaine et dans les préoccupations d'un artiste. Nous sommes peut-être à la rigueur dans les préoccupations d'un artisan. Mmh. Mais un peintre n'est pas un fabricant de peinture. Un sabotier est un fabricant de sabots.
Comment recevez-vous, Pierre Soulages, ce qui vous arrive? C'est-à-dire que maintenant, vous ne devez plus vous inquiéter. On attend vos toiles dans les expositions. Beaucoup de livres vous ont été consacrés. Il en est un qui est magnifique. C'est un véritable album. Alors, vous regardez tout cela. Est-ce le fait d'une consécration? Ou est-ce le commencement d'une peur?
Oh, ce n'est ni l'un ni l'autre, je crois. C'est un phénomène normal dans la société dans laquelle nous vivons.
Oh, pas normal pour tout le monde. Il y a vraiment beaucoup.
Oh, à partir du moment. Oui, bien sûr, je veux dire normal pour quelqu'un qui a. Quand un peintre a fait des tableaux dans une centaine de musées dans le monde, il y a toujours un éditeur pour faire un livre sur ce peintre. Et c'est ça la conséquence. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et non seulement un éditeur pour faire le livre, mais aussi des gens pour acheter le livre. Et bon, c'est comme ça que je considère. Pas qu'avoir un livre somptueux sur la peinture soit une consécration.
Mais avez-vous l'impression qu'il y a plus d'amoureux de la peinture qu'avant? On s'est aperçu tout d'un coup qu'il y avait beaucoup d'amoureux de la musique. Et je veux dire que la musique, on en parle maintenant de plus en plus, oui. Et même d'une certaine manière un peu étonnante.
Oui.
Mais pour la peinture, est-ce la même chose?
C'est probablement dû à la radio, c'est probablement dû aux moyens maintenant.
Ah oui, c'est plus facile pour la musique.
D'écouter la musique maintenant. Pour la peinture, il y a la télévision, mais enfin, pour la télévision et la peinture, c'est difficile.
C'est un problème.
C'est un grave problème.
Qui n'est pas réglé.
Non,
vous pensez que la télévision ne fait pas son travail?
Ah!
Par rapport à la peinture.
Par rapport à la peinture, absolument. Elle ne fait pas son travail. Mais je parlais, moi, d'une manière beaucoup plus matérielle et beaucoup moins polémique de cette chose-là. Je pensais au tube cathodique et au rapport que l'image du tube peut avoir avec ce qu'est réellement un tableau. Voilà. Mais... Si la télévision, au fond, le but de la télévision, ce serait de donner aux gens l'envie d'aller voir ce que sont les tableaux. Exactement le même but que celui des livres dont vous parliez, car, vous savez, un peintre n'est jamais tout à fait satisfait de voir ses toiles reproduites en réduction. Car elles sont toujours réduites, et elles sont réduites toujours à peu près au même format, ce qui est quand même qui est le format de la page, à peu de choses près, alors qu'il y a des peintures qui ont 6 mètres, et d'autres qui ont 30 cm, et elles arrivent dans un livre presque avec les mêmes dimensions. C'est scandaleux. D'autre part, un tableau dans un livre, c'est quelque chose auquel il manque l'épaisseur, sa qualité d'objet, le côté châssis, le côté toile, et puis, presque toujours, ou ils sont coupés sur les bords, ou bien ils sont encadrés de ce blanc, qui est le blanc du papier, et qui n'a rien à voir avec le mur blanc sur lequel pourrait être le tableau.
À chaque fois, c'est un petit assassinat.
Oh oui, chaque fois.
Mais vous ne pensez pas, Pierre Soulages, qu'il faudrait commencer quand même par les enfants?
Ah, sûrement.
Après, le regard soit bon. C'est vrai, si on disait aux enfants, voilà comment il faut regarder un tableau, voilà comment il faut aimer la peinture et la musique.
Oui,
pas d'initiation, plutôt des séances d'amour. Enfin.
Oui, c'est ça. Leur donner envie d'aller voir.
Oui.
Vous savez,
pas enseigner.
Non, sûrement pas. Je vois les troupeaux d'enfants que l'on amène quasiment de force dans les musées. Je trouve ça terrible. Je crois toujours que les musées, comme toute chose, il ne faut pas y entrer sans désir. Et c'est ce désir qu'il faut faire naître. Et c'est ça qui est important.
Vous avez l'impression d'avoir été fidèle à votre rythme?
Qu'est-ce que c'est mon rythme?
À votre construction, à vos couleurs, au noir, au blanc. Je vois vos formes, ce sont des formes. Et souvent, vos formes me rappellent des pierres.
Oui, pourquoi pas. Mais je ne...
Non, il y a une unité dans une œuvre.
J'espère.
Il y a une respiration qui est propre à chacun.
Oui.
Mais vous ne la connaissez pas, cette respiration.
Oh, je ne m'interroge pas sur ça.
Et vous êtes quand même passé à la sculpture.
Oh, ce ne sont pas des sculptures.
Oui, mais quand même, c'est une manière de prendre des formes et...
Oui, mais c'est très particulier. Vous savez, c'est arrivé à la suite d'une expérience d'une expérience. Ce mot est mauvais, parce qu'il y a dans l'expérience le côté expérimental. Ce n'est jamais expérimental, ce que je fais. Ce n'est pas pour voir, ce n'est pas... Non, mais je veux dire, c'est arrivé avec une pratique de la gravure. Je gravais des plaques de cuivre que je faisais découper par l'acide, en collaborant d'ailleurs avec les hasards possibles de l'acide. Et ces plaques, une fois découpées par l'acide, je les rangeais contre un mur. Et je me suis aperçu qu'elles avaient une vie en elles-mêmes qui n'était pas celle qu'une gravure a. Une gravure n'a de... Quand je gravais ces plaques, je les gravais toujours pour l'empreinte qu'elles allaient laisser sur du papier, pour faire une estampe. Mais je me suis aperçu un jour que, finalement, il en faudrait peu pour que ces plaques de cuivre aient une vie qui leur soit propre. Et de là m'est venue l'idée de ces grandes plaques de bronze que j'ai faites récemment et que l'on appelle sculpture, mais moi je ne les appelle pas des sculptures, d'abord parce que ça ne
joue pas. On peut appeler ça comment, alors ?
Ce sont des plaques, ça ne joue pas, ce sont des sculptures de peintre, si vous voulez, mais enfin, ça ne joue pas comme une sculpture. Une sculpture utilise la troisième dimension pour créer son espace propre. Or, ces plaques sont à peu près planes, enfin, ne sont pas... Et ce qui compte, c'est les parties qui brillent et les parties qui sont corrodées par l'acide et qui ne brillent pas. Et finalement, l'espace naît là des jeux de la lumière sur les parties brillantes qui s'opposent aux parties sombres. Et c'est pourquoi cela me gêne un peu d'appeler ça de la sculpture. Alors c'est un type de sculpture très spécial qui ne joue pas avec la troisième dimension, qui ne s'appuie pas sur la troisième dimension, mais qui s'appuie sur la lumière.
Vous avez le sens de la durée ? Jusqu'où voulez-vous aller ?
La durée ? De quelle...
Prenez-le dans le sens où vous le recevez.
Vous parlez de la vie humaine ? Vous parlez de quoi ?
Mais vous l'avez compris, vous, comme vie humaine, en tout cas.
Je ne sais pas.
C'est comment on le reçoit ?
La durée, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé dans la peinture. Et c'est une chose qui a beaucoup compté dans ma peinture, puisque, au fond, mes premiers tableaux sont venus d'une expérience du graphisme et de l'écriture du mouvement par le geste que j'ai refusé, car cette écriture du mouvement, la trace du geste, sous-entendait une durée. Et à travers, j'y voyais là une anecdote figurative de mouvement, mais aussi une anecdote romantique. On pouvait dire, si l'on suivait le laps de temps dans lequel s'écoule une ligne tracée sur un papier, là, sa main tremblait, c'était d'émotion. Enfin, on pouvait voir la chose comme cela. Et ça me dérangeait, et j'y préférais une autre manière de comprendre le temps, c'est-à-dire d'immobiliser ces traces peintes dans une forme qui se lit d'un coup. Alors là, oui, c'était une réflexion sur le temps et la durée. Mais je pense que la question que vous me posiez n'était pas celle-là.
Mais vous l'avez prise comme cela et c'était important. Je vous demandais si, sur le plan de la durée...
Certainement.
C'est-à-dire savoir jusqu'à quel moment on peut aller pour pouvoir réussir ce que l'on tente de faire.
Mais ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas.
Il y a cette réflexion des étudiants communistes qui ne vous plaît peut-être pas. Ils avaient à un certain moment instruit votre procès. Alors les questions posées, c'était celles-ci, je les ai retrouvées. Soulage participe-t-il à notre époque ? Alors, vous participez à cette époque ?
Mais je suis fait d'elle.
Et puis l'autre question, c'était peinture d'initié ou aventure poétique ? Qui répondait d'ailleurs en posant la question, non ?
Oui, c'est très clair. Là.
Alors, peinture, plutôt bien, aventure poétique.
Mais pas plutôt, seulement.
Seulement aventure poétique. Merci Pierre Soulages.